Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDUA sur le 101.7 et sur le 107.5 FM, également sur internet www.rdwa.fr. Et je reçois aujourd'hui trois personnes pour l'association Les Engoulevents, club ULM de l'Échandillois, avec Réjeanne, bonjour.
Bonjour.
Alain également.
Bonjour.
Et Francis.
Bonjour.
On va parler un petit peu de cette association. Alain, vous en êtes le président ?
Tout à fait.
Est-ce que vous pourriez nous faire un petit rappel de quel est son objet, où non. elle est, qu'est-ce qu'on y fait avec les Engoulevents ?
L'association, elle est née en 2014 à l'Échandillois, sur l'idée, bon, on est un petit peu tous des anciens de l'aviation. Quoi. On est un peu tombé dans la marmite quand on était petit.
C'est-à-dire ancien de l'aviation ? Pilote
Oui, pilote et ingénieur. Moi, j'ai passé mon brevet de pilote d'avion avant de mon permis de conduire à l'époque. Donc voilà, ça remonte à plus d'un demi-siècle. Et on a toujours adoré voler, même si on a fait d'autres activités professionnelles autour de l'aéronautique, autour d'aspects plus ou moins techniques, hein, au niveau de la sécurité des vols, etc. Et donc... Arrivé dans le Diwa, on est dans le Diwa depuis une vingtaine d'années, on voulait se retirer parce que c'est un pays merveilleux, on s'y plaît beaucoup. On s'est demandé comment continuer à voler. Et là, on a un peu trouvé la solution de l'ultra-léger motorisé de l'ULM, qui permet d'amener le vol vers nous et vers ce territoire. Alors on a aménagé une piste, on a construit un hangar, on a créé une association, donc, et on vole. Et alors, on ne voulait pas créer une association comme toutes les autres, parce que depuis longtemps, on est tous très sensibilisés sur les questions du handicap.
Ça, c'est lié à votre histoire personnelle, hein, je le sais.
À titre personnel, et Francis aussi, à titre personnel. voilà, et aussi au niveau de notre vie professionnelle. Donc, on s'est mis en tête de créer la possibilité de faire voler des personnes qui ont des handicaps physiques ou autres, d'ailleurs. Et on a construit un ULM pour ça, parce que l'avantage de l'ULM, c'est qu'on a plus de liberté d'imaginer des solutions plus facilement que dans l'aviation certifiée. Voilà, et c'est parti comme ça, l'association 2014, un ULM qu'on a appelé Volandi, une espèce de fauteuil volant, un hangar, et depuis, la fédération ULM s'est intéressée à ce qu'on faisait, et aujourd'hui, on a développé un concept qu'on appelle Handivol, au niveau national. Et donc je suis le référent et l'animateur. Quoi. Donc, ce qui a été créé dans le Diwa a fini par atteindre l'ensemble du territoire à travers les structures. Et on s'emploie à motiver les associations pour accueillir des personnes en situation de handicap. Parce qu'aujourd'hui, pour les associations qui relèvent d'une fédération sportive, c'est une obligation, hein, de prendre en charge ces personnes, de mettre la pratique à niveau, pour qu'elles puissent voler en ce qui nous concerne ou pratiquer d'autres sports dans d'autres domaines. Voilà en quelques mots pourquoi et on a fait ça et comment.
Et vous étiez les pionniers du coup du vol pour personnes en situation de handicap ?
Il y a déjà eu des tentatives ailleurs, on ne va pas se prétendre entre les pionniers. La fédération ULM a déjà une histoire dans ce domaine parce qu'elle a souvent accueilli des pilotes d'avion qui, pour des raisons médicales, ne pouvaient plus voler parce qu'ils avaient eu un accident. Et donc elle les a accueillis et organisés. On était plutôt dans une politique de la demande et on est passé aujourd'hui dans une vraie politique nationale de l'offre. Qui permet donc d'accueillir, dans des conditions qu'on espère les meilleures, des personnes en situation de handicap dans les associations qui pratiquent l'ULM, dans les différentes classes d'ULM, parce que dans l'ULM, ça va du paramoteur à l'hélicoptère, c'est très varié, et pour tous les handicaps, pas uniquement les handicaps physiques ou sensoriels, mais aussi des handicaps psychiques, cognitifs, pour emmener des personnes en vol. Personne ne vont peut-être pas piloter, mais déjà le fait de les faire sortir, de faire découvrir une activité, de les emmener dans le ciel, c'est généralement très satisfaisant pour tous ces publics.
Je me tourne vers Réjeanne. Votre rôle dans cette association ?
Alors moi, je suis secrétaire de l'association. Bon, je participe aussi au vol puisque je suis anciennement pilote et instructeur. Et bon, j'aide mon mari lors des journées baptême. Et toutes les manifestations, je fais aussi des baptêmes, je m'occupe du secrétariat.
Mais il y a un moment donné, on n'a plus le droit de voler, vous disiez anciennement pilote.
Ah si, si, on a le droit de voler, mais on s'est tourné vers l'ULM pour des raisons pratiques,
ah oui,
parce
voilà,
que
pardon.
C'était plus facile. Et... Oui, bien sûr, on peut.
Mais on peut savoir de pilote de quoi vous étiez avant
Alors moi, j'étais pilote sur des monomoteurs, je faisais de la formation de base. Et puis, bon, j'ai fait de l'avion-taxi, j'ai fait pas mal de choses, comme on a vécu outre-mer aussi, on a voilà, eu d'autres activités. Et là, ça me permet de continuer à voler et puis de prendre part aux activités de l'association.
Alain, vous étiez pilote sur quoi ?
Alors moi, j'étais dans un service de l'État et j'ai volé sur des monomoteurs, des bimoteurs. Je m'occupais de formation de pilotes et d'instructeurs, de formation de pilotes de ligne. Et je me suis beaucoup déplacé en avion pour mes besoins professionnels, quoi, pour diverses missions.
Et enfin, je me tourne vers Francis. Alors vous, votre lien avec l'association et puis au passage, pilote de quoi ?
Alors donc moi, je suis le trésorier de l'association. Alors moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai 40 ans de travail dans l'aéronautique, mais pas du tout en tant que pilote, en tant qu'informaticien. Voilà, moi, je suis à la base un mécanicien qui a mal tourné et qui a fait 40 ans d'informatique. et donc, à la retraite, je m'étais donné 3 challenges. Comme je n'avais jamais volé, je m'étais dit, je veux connaître la troisième dimension. Donc, je me suis dit, va falloir que tu saches piloter. J'en avais un deuxième qui était d'apprendre à nager parce que j'avais jamais eu le temps d'apprendre à nager. Et le troisième, bon, tout à fait ludique, c'était la pêche à la ligne au fouet. Donc j'ai commencé par l'apprentissage du pilotage. Et des copains m'ont dit, écoute, laisse tomber l'aviation légère, c'est un peu trop lourd, passe à l'ULM. Alors je me suis inscrit au club ULM de Montélimar en tant qu'élève. Et chemin faisant, j'ai fait la connaissance d'Alain, qui a été mon instructeur et qui, avec lui, j'ai passé donc le brevet de pilote ULM avec quelques classiques. Enfin, je ne sais plus comment on appelle, moi, Alain, le fait de pouvoir faire la radio. Et
oui, il y a des qualifications associées.
Classifications, voilà. Bien sûr. J'ai passé les classifications qui me permettaient de voler avec des amis, voilà. Et donc Alain était dans la démarche du handivol. Moi, en tant qu'ancien handi, même toujours handi, étant donné que j'étais touché par la polio à l'âge de 3 ans, quand on est gamin, on n'est jamais handicapé. À 3 ans, on attrape la polio. L'inclusion, on se la fait tout seul. Donc, j'avais jamais participé à des choses de handi parce que le handicap m'avait laissé assez de possibilités pour faire ce que tous les autres faisaient, à un niveau différent, mais ce que tous les autres faisaient. Et voilà, je me suis senti quand même à la retraite un peu attiré par le fait d'aider et de participer à l'inclusion de gens qui ne pouvaient pas s'inclure aussi facilement que moi je me suis inclus dans la société. Donc j'ai adhéré à ce club. Et bon, quand on est à la retraite, on est toujours très actif, même de temps en temps trop actif. J'ai eu des fonctions d'élu et bon, j'ai arrêté ces fonctions d'élu pour rentrer dans le club parce qu'on touche, c'est très concret et le peu que l'on fait, on en voit le résultat de suite. L'argent qui est géré par l'association, on le voit tout de suite sur le terrain. On n'est pas dans... Je ne voudrais pas être trop brutal, mais on n'est pas dans de l'enfumage permanent. On voit que tout ce qu'on fait, ça se voit de suite. Chaque euro qui rentre dans l'association, on le voit sur le terrain. C'est ce qui, pour moi, était très important.
Par opposition à une activité touristique
oui,
par qui
rapport
viendrait
à d'autres
fournir
types
du
d'associations où, effectivement, on est plus dans du message, dans des approches comme ça. Et voilà, et ça m'a plu parce que c'est dans mon ADN, le fait de faire des choses et que ça se voit concrètement et que ce soit mesurable par soi et par les autres.
Et comment vous l'expliquez que vous ne soyez pas tombé dans les travers potentiels avec cette association Les Engoulevents ?
C'est peut-être une question de valeur, on va dire. Notre démarche, c'est une démarche qui se veut inclusive. C'est-à-dire que On accueille des personnes handicapées, on essaye de les intégrer dans un milieu. On est tous plus ou moins handicapés, je veux dire, et on le sera peut-être tous plus ou moins un jour. Donc il faut trouver des solutions pour tout le monde. Ce qu'on fait, nous, modestement, pour des personnes handicapées, ça profite à l'ensemble de la société, quelque part. Et c'est cette démarche un petit peu qui nous anime. Alors, on s'intéresse à tous les publics. On fait des vols touristiques pour des gens qui nous demandent de découvrir le ciel du Diois, avec grand plaisir. Mais ça n'est pas notre métier. On ne le cherche pas à en faire plus. On le fait pour les gens qui viennent vers nous et qui ont envie de voler avec nous, handicapés ou pas handicapés. Et c'est le sens de cette activité. En plus, on ne veut pas non plus polluer le ciel et faire trop de bruit. Donc on essaye d'être discret. Avec nos ULM, sont encore des moteurs thermiques. Aujourd'hui, ça évolue vers l'électrique. Mais c'est un peu modeste parce qu'il faut transporter des batteries. Les faire voler, c'est compliqué. Mais on y arrive. Et donc vis-à-vis de ce respect de l'environnement, on essaye d'avoir une empreinte la plus douce possible et d'embêter personne. Quoi.
Le fait est que vous n'embêtez personne. On se demande même où est-ce que vous volez. Ça, en tout cas, ce n'est pas dans le Diois ou dans la vallée. Là,
nos machines sont discrètes. Hein. Ah, et ouais, puis, bah, voilà. On s'est donné des règles de ne jamais voler bas, de ne pas voler près des falaises pour ne pas déranger l'avifaune, etc. Quoi. Je veux dire, nos pilotes sont des gens très respectueux.
Il y a une charte de vol spécifique.
Elle n'est pas écrite, mais il y a une charte qui se transmet de bouche à oreille. Et de toute façon, pour moi, les pilotes qui ne respectent pas ces règles-là ne volent plus chez nous. Voilà. C'est aussi simple que ça.
Oui, on en a déjà exclu d'ailleurs.
C'est déjà arrivé.
Alors, cette piste du LM, on l'avait déjà dit dans une précédente interview, oui. Hein, on peut renvoyer l'auditrice, l'auditeur vers ce portrait d'association sur l'association Les Engoulevents. Mais peut-être quand même pour se rappeler un peu, elle est donc basée à Lèche. Et elle a cette particularité d'être une des pistes de décollage et d'atterrissage les plus montagnardes
du Diois. Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Donc c'est plus un vol un peu particulier qu'il faut avoir.
Oui, c'est quand même une piste de montagne dans un environnement montagnard avec la complexité qu'il a au niveau de l'aérologie.
Très venté.
Très vanté. Donc ça suppose des techniques de pilotage un peu spécifiques et on s'emploie à former nos pilotes pour qu'ils soient compétents et à l'aise dans ce type d'environnement. Et on forme aussi parfois des gens qui viennent de l'extérieur qui veulent se familiariser avec ce type d'environnement. Donc il y a la piste de notre piste à Lèche-en-Diois, mais on va aussi sur une piste comme celle de la Motte-Chalancon, qui est une piste inclinée, un altiport. On en a créé d'autres, on a créé des pistes occasionnelles chez des particuliers qui nous autorisent à nous poser chez eux, et c'est très sympathique en général.
Et pour quelle raison multiplier les pistes, j'allais dire ?
Pour multiplier les compétences et pour multiplier les apprentissages. Parce qu'en fait, chaque piste a ses particularités, c'est des environnements généralement un petit peu restreints. Et donc, pour acquérir vraiment un savoir-faire, il faut multiplier les essais et les expériences.
Et puis se rencontrer des randonneurs quand on s'est posé sur une piste de montagne, c'est aussi un échange très, très positif. Hein, parce que les randonneurs ne s'attendent pas à voir un avion à cet endroit-là et qu'ils ne l'aient même pas entendu arriver et qu'ils entendent à peine décoller. Donc voilà, au niveau de l'intégration dans la montagne, c'est aussi relativement intéressant. Et voilà, ouais.
Ça va jusqu'où un ULM ? Un ULM, c'est quoi son autonomie ?
On a un rayon d'action qui est assez important. On a 4 heures d'autonomie en moyenne. Et bon, 4 heures à 120, 130, même.
Allez, hein, oui, allez, 500 km.
Allez, 500 km, on va dire. Voilà.
Ah ouais, en circulaire. Donc oui. Vous pouvez aller jusque dans les Hautes-Alpes.
500 km en linéaire.
En linéaire,
et
d'accord.
Après, en circulaire.
Donc un petit aller-retour avec l'Italie, quoi.
Ah,
on
oui.
pourrait, sans problème.
Oui, oui. Mmh.
Dans les vols de découverte, dits vols touristiques, il y a des limitations quand même. On ne doit pas s'éloigner à plus de 40 km. On n'est pas limité en durée, par contre, au niveau de l'ULM, mais donc ça nous permet de faire un circuit qui permet de découvrir la vallée du Buëch, le Dévoluy, le Mont-Aiguille, de revenir le long du Glandas, en respectant bien sûr les règles liées au parc du Vercors. Donc un vol d'une heure permet de découvrir le Haut Diois. Pour d'autres, ça va être la découverte des Trois Becs, etc. Donc on va un petit peu à la demande du passager.
Ah oui.
Pour lui faire découvrir ce qu'il veut, faire des photos s'il a envie de faire des photos, survoler sa maison s'il a sa maison, etc. Enfin, on fait de très très beaux vols. Vraiment, c'est une région fabuleuse. Et moi, je vole très souvent et je prends toujours autant de plaisir à voler le matin. C'est magnifique.
Les machines qui sont entreposées dans votre garage, hangar, oui. À Lesch, c'est toutes des machines de l'association ?
Alors, il y a des machines de l'association et puis des machines des membres que nous abritons. L'association possède en propre deux machines. Donc une machine pour faire voler des personnes handicapées, le fameux Volandi, et puis une machine plus classique qui nous permet de faire de la formation pour tout le monde et des petites balades autour de l'aérodrome et dans tout le Diois.
La dernière fois qu'on s'était vu, on avait un petit peu parlé justement de cette machine qui permet de faire voler des personnes en situation de handicap. Vous disiez qu'elle était à améliorer encore, qu'il faudrait... où ça en est ? Est-ce que vous allez vers un nouveau modèle ? Plus léger, plus maniable.
Ah oui, je vois que vous souvenez de notre discussion.
Ah bah, quand même.
Alors on a...
C'est l'occasion, il s'est passé un an et demi là. Qu'est-ce que vous avez fait ?
Oui, alors on a travaillé.
Il faut venir chez nous de temps en temps.
On est resté sur la même machine, mais on l'a fortement améliorée. C'est-à-dire qu'on a essayé de corriger tous les petits défauts de jeunesse qu'elle avait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un produit qui est quand même arrivé à maturité. Voilà, donc elle vole très très bien, très sympa. Et on est content du résultat.
Alors, Volandi étant une machine, c'est comme si on était en moto dans l'air. Voilà,
Donc tout se pilote à la main.
Tout se pilote à la main. Voilà, ouais. Et ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de, il y a pas de.
Il y a pas de cellule fermée.
On n'est pas fermé, on est complètement ouvert. C'est-à-dire on a un visuel, à 250 degrés quasiment, en tournant légèrement la tête.
En dessous aussi.
Et en dessous, et voilà, c'est en moto, hein, on peut tout à fait comparer, c'est la moto du ciel. Voilà.
Donc même si on n'est pas handicapé, on pourrait préférer voler sur cette machine.
Mais il y a des gens qui préfèrent.
Oui, tout à fait. Beaucoup de personnes nous demandent pourquoi je ne peux pas voler sur celui-là. Mais vous pouvez, il n'y a pas de problème. On va juste mettre un casque et bien vous attacher, vous couvrir un petit peu. Et on va se faire plaisir, quoi. On a le vent, on vole à peu près à 100 km/h, donc ça fait un peu de courant d'air. Pour faire des photos, c'est fabuleux, parce que comme il n'y a pas de vitrage, il n'y a pas de reflet, etc. Il faut juste bien accrocher les appareils, parce que sinon c'est un peu embêtant. mais c'est une machine qui a beaucoup de succès, c'est très marrant, très fun, et c'est du vol plaisir.
Et à quel niveau cette machine vient elle aussi influencer peut-être éventuellement d'autres clubs avoir ce type de machine-là, ou est-ce qu'ils partent sur d'autres ingénieries ?
Alors, c'est une solution originale. Il y a eu trois machines identiques qui ont été construites sur un modèle à peu près identique, qui volent toutes les trois. La dernière vient de partir dans l'est de la France, et elle vole à Chamblay, chez des amis. Aujourd'hui, on trouve maintenant sur le marché des appareils de série qui ont été aménagés pour les personnes en situation de handicap. Alors c'est sans doute un peu plus sophistiqué, ce sont des machines fermées, des ULM, ce sont des multi-axes, c'est-à-dire des machines qui sont un petit peu comme des avions, mais qui ont des systèmes de pilotage à la main extrêmement bien faits et extrêmement faciles à prendre en main. Alors jusqu'ici c'était des modèles étrangers, mais là on travaille avec un constructeur français qui est AGAP sur la même adaptation sur le modèle qu'il produit, qui est un modèle français.
Affaire à suivre donc.
Tout à fait.
Et si vous êtes là tous les trois aujourd'hui, c'est pour nous parler de deux journées que vous proposez, les samedis 9 juillet et dimanche 10 juillet. On rentre dans le détail, cette journée du 9 en particulier, puisqu'on en parlait sur le handivol.
Alors, on avait déjà pris cette initiative l'année dernière, donc on recommence au vu du succès. C'est une journée qui s'adresse à des personnes en situation de handicap, toutes sortes de handicaps. Nos partenaires dans cette journée, ce sont essentiellement les clubs handisport de la région, de la Drôme, qui viennent vers nous. Et on leur propose donc une activité de vol en ULM, mais aussi on met à leur disposition la possibilité de faire des parcours dans la nature avec des fauteuils tout-terrain électriques et aussi des swing cars, dont on parlera sans doute un petit peu tout à l'heure, qui est une espèce d'engin un peu hybride, un peu curieux.
Ben, allez-y. le FTT, je crois que tout le monde voit, mais
tout le monde connaît. Alors le swing car, on pourrait dire que c'est le FTT biplace. Voilà, le gros intérêt du swing car. Alors c'est un engin de mobilité douce qui est électrique, conçu dans la Drôme. Pascal Rambaud, là, qui est du côté de Montélimar. Un engin assez étonnant parce que il a 4 roues motrices indépendantes et qui sont directrices. Et c'est un système pendulaire, c'est-à-dire qu'on est toujours, même dans les virages, on est à la verticale. Donc c'est une espèce d'araignée roulante.
Ah, ce qui permet de franchir carrément des rochers.
Des obstacles. Alors, de manière douce, hein, c'est plutôt un engin de trial, c'est un engin de mobilité. Alors, il a l'avantage d'être homologué sur route, Donc on peut se déplacer, vous pouvez aller acheter votre journal avec si vous voulez. Généralement, on ne passe pas inaperçu d'ailleurs. Et il a le gros avantage, donc, mis à part ses capacités de franchissement un peu tout-terrain, c'est d'être biplace. La plupart des engins de mobilité pour handicapés sont des monoplaces. Et donc ça permet d'emmener un passager qui ne pourrait pas conduire à cause de son handicap. Et ça, c'est pour nous, c'est extrêmement intéressant. Et c'est pour ça qu'on veut développer cette activité. On a un projet qu'on a appelé Handi Évasion, voilà, qui est un projet donc, d'acquisition de swing car tandem. Il y a des monoplaces et des tandems. Et nous,
par l'association, là, pour
le coup. L'association, ouais. Pour proposer des randonnées accompagnées à plusieurs véhicules sur les chemins du Haut-Diois, pour des personnes handicapées, bien, mais aussi pour des personnes valides, mais qui n'ont pas forcément envie de grimper à pied sur les chemins, parce qu'on n'a pas tous la même capacité physique. Et donc, ça s'adresse à tout le monde. Cette activité donc de swing car va nous permettre aussi de travailler en synergie avec d'autres structures comme le comité handisport qui en possède déjà et de proposer en se regroupant des sorties sur plusieurs jours pour un nombre assez conséquent de personnes en situation de handicap, un petit peu des raids si vous voulez. Et je pense que ça pourra déboucher sur une activité spécifique pour ces personnes-là. On peut aussi imaginer des challenges amicaux de précision du pilotage, des choses comme ça, comme on fait en fauteuil tout-terrain. Quoi. Donc c'est une activité qui commence à se développer et on souhaitait prendre place dans cette activité-là parce que ça nous paraît extrêmement intéressant, enrichissant, qu'en étant bien guidé, accompagné dans la nature, on ne fait pas de dégâts, mais aussi on peut découvrir l'environnement, découvrir l'histoire, découvrir la faune, la flore, la géologie, enfin avoir des randonnées à thème. Et avoir quelque chose qui est, à tous les égards, une découverte complète de ces paysages qui sont magnifiques.
J'imagine que, du coup, ça va passer par des partenariats avec d'autres associations
Absolument.
Pour tous ces thèmes.
Absolument. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Francis a déjà sauté le pas, puisqu'il est propriétaire de Swing Car.
Étant un grand randonneur cycliste et pédestre, donc après, avec l'âge arrivant, on est de moins en moins grand randonneur pédestre, on devient de plus en plus promeneur. Et donc, quand il y a des chemins forestiers avec une grosse valeur ajoutée au niveau de l'environnement dans lequel on circule, j'ai acquis un swing car, un tandem, pour justement continuer à aller dans certains endroits où on ne dérange personne, où on est très bien. Et de façon, alors, ce quadricycle électrique, au plus on le conduit souplement, au plus on est intégré. Et il y a un petit klaxon dessus qui permet aussi d'avertir les randonneurs qu'ils ont un véhicule qui arrive à 10 mètres derrière eux. Comme quoi, on s'intègre parfaitement à l'environnement. Voilà, c'est un véhicule, l'essayer, c'est l'adopter. Et pour continuer à avoir une grande autonomie de déplacement dans les chemins forestiers en montagne, c'était la solution. Alors, on peut circuler effectivement sur les chemins communaux. Et quand on se déplace, on sait qu'on est sur du privé. Donc, la moindre des choses, c'est de prendre contact avec les propriétaires et leur demander effectivement l'autorisation de circuler. Parce que de loin, on ne voit pas qu'on entend. Certes, on n'entend pas de bruit, mais on voit un véhicule qui se déplace sur sa propriété. Mmh. Et voilà, le moindre des choses, c'est d'être très respectueux des endroits où l'on se déplace, chez qui on se déplace. Et là, il n'y a aucune difficulté d'intégration sur le communal ou sur le public.
Hein. C'est bien de le dire parce qu'en fait, il y a souvent des sentiers ou des zones, des GR qui passent à travers des propriétés. Et donc, c'est autorisé pour ça, mais évidemment pas, a priori, pour des véhicules. Ouais. Puis comme c'est quand même encore un peu récent comme véhicule, on n'est pas au courant.
Je pense qu'il y a encore des démarches à faire sur certains sites sensibles où effectivement les chemins forestiers sont barrés, des chemins de l'ONF, des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a, encore des démarches à faire pour concernant quand on circule avec du handicap pour ouvrir ces chemins-là. Alors, il y a des réglementations à mettre en place, mais pour que ces chemins-là s'ouvrent à ce genre de véhicule électrique. Parce qu'effectivement, il faut 1,50 m pour passer, et là où les pédestres peuvent passer à droite ou à gauche de la barrière, mais le swing-car peut pas passer, et puis le swing-car n'a pas à s'imposer dans des endroits où effectivement tout ce qui n'est pas pédestre ou VTT ou choses comme ça n'a pas vocation à y aller de par la possibilité de s'intégrer directement sur ces sentiers.
Voilà. Et dans quelle mesure, c'est une bonne question, dans quelle mesure est-ce que vous êtes, vous allez être force de proposition pour ces modifications, éventuellement de réglementation, ces questionnements-là? Parce que là, c'est vraiment quelque chose de très concret.
Alors, je pense que, je ne sais pas Alain, ce que tu en penses, mais je pense qu'il faut d'abord faire la preuve. Moi, je suis pour l'exemplarité. Si on fait la preuve en démarrant notre activité, que ça ne pose aucun souci, qu'il y a une espèce de déontologie qui se met en place des pratiquants, qui ne s'impose pas, qu'on partage l'espace avec les gens, on discute avec les propriétaires. Voilà, c'est par l'exemplarité, on peut tout doucement arriver à
créer une
dynamique favorable, y compris auprès de nos dirigeants en charge de faire la réglementation, de mettre en place les lois et ce qui va avec.
On a effectivement commencé à consulter les communes, la commune de Lège, les communes voisines, sur la perspective de circuler sur des chemins communaux, que ce soit du communal pur ou du communal dédié à l'ONF. Et bien entendu, ça suppose des démarches d'autorisation. Et on est en relation avec une association qui déjà pratique cette activité dans les Hautes-Alpes et qui a un petit peu d'expérience et qui a réussi à obtenir l'autorisation de circuler dans un parc national. Qui a donc démontré la faisabilité de son activité sans aucune dégradation et sans gêne pour autrui. Donc c'est un exemple qu'on suit de près et ils seront en principe avec nous dans nos journées pour qu'on puisse échanger sur leur expérience dans ce domaine.
Alors, on rappelle cette première journée, donc samedi 9 juillet 2022, pour cette journée Handivol. On vient à partir de quelle heure? Faut s'inscrire, tout ça?
Il faut s'inscrire. Pour les personnes handicapées, il y a un petit questionnaire à remplir pour savoir comment on pourra les prendre en charge au mieux. Et le questionnaire peut être adressé à qui le demande en s'adressant à l'association. Ça, c'est pour le samedi. Pour le dimanche, c'est un petit peu autre chose. C'est plus grand public.
Alors, c'est une journée découverte.
Journée découverte. Voilà. Découverte du vol ultra léger, un peu sous toutes ses formes. Il y aura aussi des swing cars. On pourra faire des baptêmes en swing car. On pourra sans doute voler un ULM ou prendre rendez-vous pour des vols futurs. Mais c'est plutôt la possibilité de se rencontrer, grand public et pratiquants de l'ULM. On fera venir quelques amis avec leurs machines. Tout le monde pourra découvrir des machines de plusieurs classes, discuter un petit peu. Et puis, donc faire de l'essai du swing car, puisqu'on en aura plusieurs sur place, c'est encore une autre dimension. Alors, cette année, c'est un petit peu particulier, puisque comme je travaille avec la Fédération LM sur le handivol, on aura un réalisateur de la Fédération qui va venir faire des prises de vue, des interviews de personnes handicapées qui pilotent. Voilà, pour faire un petit clip vidéo pour la chaîne YouTube de la Fédération.
Ben, inscrivez-vous alors.
Voilà, inscrivez-vous.
Pour être dans un film.
Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Avec les autorisations, bien sûr, de droit à l'image nécessaires.
Le prix de la journée, 20 euros.
20 euros, oui. Ça englobe les activités, un petit repas à midi.
Alors, ça, c'est pour le samedi.
Ça, c'est pour le samedi.
Le vol annuel M, toutes les activités, 20 euros, c'est bien entendu un tarif qui est largement subventionné par nos partenaires, donc qu'il faut remercier, comme le département, l'Agence nationale du sport, la région aussi, à travers la fédération, mais également Intermarché, qui nous aide puisqu'il nous fournit tous les ingrédients pour préparer le buffet de midi depuis plusieurs années. Et c'est grâce à eux qu'on peut pratiquer un tarif accessible au maximum de bourses. Donc ça, c'est pour le samedi. Bon, sur le dimanche, on a le même tarif, mais ça, c'est juste pour le repas, parce qu'il y aura un prestataire, on fait une grande paella, etc. 20 euros, c'est quelque chose aussi qui reste, on l'espère, accessible au plus grand nombre. C'est pour toute la journée, pour se balader, pour discuter, pour se mettre à l'ombre, pour profiter des paysages, faire un tour de swing car, peut-être un tour du LM s'il y a la possibilité, ça dépend de la météo, ça dépend de plein de paramètres. En tout cas, passer une journée conviviale à regarder quelque chose qui n'est pas forcément courant dans le paysage du Haut-Diois.
Alors, les inscriptions pour le samedi, c'est moi qui vais m'en occuper. Donc, je prendrai pour les repas, notamment.
Et tu as un numéro de téléphone à donner, peut-être?
Oui, alors c'est le 06 24 22 26 89. Et vous laissez un message si c'est le répondeur, il n'y a aucun problème et je rappellerai la personne.
Et c'est pour les repas. Pour la journée handivole spécifiquement, en s'adressant à l'association dont le mail figure sur l'affiche, donc c'est un peu compliqué.
club.ulm.o.diwa@gmail.com.
Voilà, c'est ça. On vous envoie une fiche d'inscription, vous pouvez la retrouver chez nous aussi, qui permet d'identifier quelles sont les spécificités de la personne en situation de handicap et de trouver avec elle la meilleure réponse pour la pratique des différentes activités de la journée. Alors, cette journée aussi handivole, j'ai oublié d'en parler, excusez-moi, j'ai un peu l'esprit d'escalier aujourd'hui, nous permet aussi d'accueillir nos partenaires du club d'aéromodélisme du Pays d'Iois, qui vont, ils l'ont déjà fait l'an dernier, faire du pilotage d'aéromodèles en double commande. Avec deux émetteurs à des personnes qui n'ont jamais piloté.
Voilà, donc, aéromodèle, si je traduis, c'est des avions télécommandés, quoi.
Voilà, ce sont des planeurs télécommandés. Généralement, c'est l'électrique aujourd'hui. C'est des planeurs ou des petits avions télécommandés. Donc quelqu'un qui n'a jamais piloté peut piloter. Il a avec lui un instructeur qui a aussi une commande.
Ouais, au cas où, voilà.
Au début, tout le monde a un peu peur de casser, mais ça se passe toujours très bien. Et c'est très amusant, très, très intéressant. Et c'est finalement... je dirais du pilotage à distance, hein. C'est notre façon de voler. Quoi.
Quand on veut apprendre à piloter, on commence par faire voler des avions télécommandés ou...
Pas forcément.
On le faisait autrefois. Ouais. C'est quand nous étions, jeunes pilotes, ouais. Dans les associations, il y avait toujours une partie aéromodélisme. Parce que c'était une façon de s'approcher de l'aérodynamique, de la mécanique du vol, des choses comme ça. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Les activités se sont un peu séparées. Mais la Fédération d'aéromodélisme a les mêmes obligations que nous en matière d'accessibilité des personnes handicapées. Et on s'est regroupés pour ça, pour mettre ensemble nos moyens pour offrir ce type d'activité.
Et on pourrait terminer quand même en rappelant qu'avec votre association, les Engoulevents, on peut évidemment passer son brevet de pilote.
Ah oui,
absolument.
Oui. Alors on peut passer son brevet de pilote. Et j'ai plusieurs élèves qui nous ont rejoints cette année. Et ça, c'est quand même tout à fait intéressant. On voudrait avoir des pilotes locaux aussi. On a souvent des gens de l'extérieur, mais des pilotes de la région. On peut également faire du perfectionnement au vol en montagne. On peut passer, bien sûr, les examens théoriques et pratiques. Et on peut aussi se perfectionner au voyage, un petit peu à toutes les activités liées à l'ultra-léger motorisé.
Et puis on peut devenir un accompagnateur à la fin.
Et on peut devenir accompagnateur en swing car. Voilà, parce qu'on va former...
Non, mais même en ULM, non ?
Même en ULM, oui. Ouais. Alors ça, c'est une activité que la fédération commence à développer, c'est-à-dire du passager utile. Utile au niveau du vol, le passager est toujours utile au niveau de la découverte, mais quelqu'un qui est capable de participer au vol, de gérer des manœuvres de sécurité, de participer à une opération d'urgence si nécessaire. Et ça fait l'objet d'un module de formation qu'on délivre nous aussi. Pour ceux qui volent en famille, par exemple, et qui veulent intéresser leur conjoint ou conjointe.
Ça existe déjà pour l'avion.
L'activité.
Et maintenant,
voilà. Ça existait pour l'avion.
Ça existait pour l'avion.
Et on l'a pratiqué. Voilà. Et ça existe pour l'ULM aujourd'hui.
Alors, si je peux me permettre, donc moi, je ne suis pas de la région, je ne suis pas du Haut-Diois, donc je suis du côté de Dilefi, un petit village de Roche-Baudin. Et ce que je voudrais... dire concernant cette association, c'est toute l'implication des bénévoles, qu'ils soient de Lèche ou d'ailleurs, à la réussite de notre association. On évalue comptablement justement le volume du bénévolat et concernant les Léchois et ce qu'ils nous ont apporté, mais c'est extraordinaire. Je pense que...
C'est-à-dire
financièrement, c'est des dizaines de milliers d'euros, quoi, quand on l'évalue financièrement. Et sans quoi, on n'en serait pas encore là aujourd'hui. Y compris avec, vous l'avez peut-être fait dans la dernière interview, mais tous les partenaires, qu'ils soient les collectivités locales, les entreprises avec lesquelles nous avons des liens vraiment particuliers et qui nous aident, y compris les entreprises, quasiment bénévolement quand il le faut.
Donc, quand il a fallu faire le hangar, par exemple.
Et même dernièrement, quand il s'agit de remuer de la terre, des choses comme ça, il y a une dynamique qui est vraiment très, très positive. Et voilà, on s'acharne à conserver cette dynamique parce que Moi, j'ai un parcours aussi associatif un peu partout en France. Mais j'avoue que je suis scotché concernant la durabilité de cette dynamique à Lèche depuis que j'y suis là, 2015 dans l'association. Donc, un salut particulier aux Léchois et à tous les bénévoles qui participent aux activités, à faire en sorte que cette association soit toujours très performante dans ses objectifs.
Mais merci à vous aussi, puisque vous en êtes de ces bénévoles.
Merci de nous accorder cette interview. Je crois que c'est important de faire connaître nos activités. Je crois nous sommes très accueillants. Je veux dire, si des gens veulent venir nous voir, et ils viennent chez nous, à Lèche, là-haut, ils nous appellent éventuellement, on leur montre nos installations. Ils ne sont pas forcés de voler ici, juste pour regarder, pour discuter avec nous, pour faire bientôt du swing car aussi, puisqu'on ne peut faire que voler. Voilà, ce qu'il faut qu'on sache, c'est qu'on est là pour participer à la vie associative de ce territoire et y associer toutes les personnes qu'ils souhaitent.
Donc on est les bienvenus.
Absolument.
C'est combien l'adhésion ?
Alors, il y a deux types d'adhésion. Si c'est pour apprendre à piloter, l'adhésion annuelle coûte 100 euros. Si c'est pour participer aux autres activités, nous aider, même faire un petit tour de temps en temps, l'adhésion donc de membres sympathisants, je crois que ça s'appelle comme ça, ouais. 50 euros. Et puis, le café est gratuit, bien sûr.
Et puis on peut jouer au boule à l'abri dans votre hangar, ce qui est quand même
c'est pas mal, hein,
dans cette zone de Lèche particulièrement le bienvenu.
Concernant le hangar, concernant la base en elle-même, donc sur le site, il y a des photos extraordinaires où on peut voir justement le volume de bénévolat en action. C'est assez spectaculaire.
Ouais. Et nous, on a pris exemple sur cette manière de le faire,
oui, c'est vrai, oui.
Pour aménager la halle de la commune de Barnave. Enfin, je glisse ça comme ça au passage.
Oui.
Donc n'hésitez pas à aller visiter, c'est très intéressant. Ouais. Allez plutôt à Lèche, pas chez nous. Parce que d'abord, c'est pas fini,
mais voilà, on viendra voir. Bien sûr.
Non, mais je préfère que les gens aillent voir ce que vous faites. Voilà, c'était l'association Les Engoulevents. Ben, encore une fois, merci à vous. On vous souhaite tout de bon pour ces deux journées, puis pour tout le reste aussi également. Samedi 9 et 10 juillet à Lèche-en-Diois.
À partir de 9h, 10h, 11h, comme on veut.
Comme on veut.
Comme on veut.
Bon, dès 9h, alors.
Voilà.
Dès
9h. La paella sera en train de se préparer sur le coup de 11h30. Donc ça dépend de ce qu'on veut faire.
Belle journée.
Merci.
Merci à vous.
Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.